en tête, on va dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Merveilleux, merveilleux verset, mais que parfois on a du mal à vivre. On se dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne sais pas. Alors, on va regarder la parole et revenir sur ce verset plus tard. Bien, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur le texte que nous avons vu ces dernières fois, les derniers mois, sur la parole d'Ézéchiel 37. Vous souvenez l'histoire qui est très 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 marquante parce que il y a des images qui sont très très fortes et donc on va relire parce qu'en fait ça va nous donner le contexte qui va expliquer un petit peu ce qu'on va dire ensuite, d'accord? Donc c'est dans Ézéchiel 37. Alors, c'est la vision, c'est une vision donc que Ézéchiel a eue, que le Seigneur lui a montré. La main du Seigneur fut sur moi. Le Seigneur me fit sortir par un souffle et me déposa au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Ils étaient très nombreux dans la vallée et ils étaient très secs. Il me dit, humain. Ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Il me dit, parle en prophète sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Voici ce que dit le Seigneur Dieu à ces ossements. Je fais venir en vous un souffle et vous vivrez. Je placerai sur vous des tendons, je ferai pousser de la chair sur vous et je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un souffle, vous vivrez. Et ainsi, vous saurez que je suis l'Éternel. Je parlais en prophète selon ce qui m'avait été ordonné et comme je parlais en prophète, il y a eu un bruit. Il y a eu un frémissement et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je constatai qu'il y avait sur eux des tendons. La chair se mit à pousser et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait pas de souffle. Il me dit, parle en prophète sur le souffle. Parle en prophète humain. Tu diras au souffle, ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des quatre vents, au souffle, souffle sur ces tués, et qu'ils revivent. Je parlais en prophète, comme il me l'avait ordonné. Alors le souffle vint en eux, ils reprirent vie et se tinrent debout sur leurs jambes. C'était une très grande armée, une armée immense. C'est un texte très très fort, si vous ne l'avez jamais lu, eh bien vraiment c'est quelque chose de vraiment marquant, parce que même si c'était une vision, Ézéchiel l'a vu comme s'il était vraiment dedans, et c'était dans une vallée où il y avait eu une bataille des luttes, et certainement une guerre qui a fait que toute une armée était disséminée, morte, semée dans la vallée. C'était vraiment quelque chose d'effrayant. Ézéchiel était effrayé à regarder cette vallée où il y avait ces ossements. Et pendant qu'il était dans cette vision, dans cette vallée, Dieu lui a dit de parler à ses ossements qui étaient déjà secs. Et il lui disait à Ézéchiel, il a dit à Ézéchiel, est-ce que ces os peuvent revivre? Eh bien, c'est quelque chose qu'on a vu ces derniers temps ensemble. Mais on a vu que ces ossements ont repris vie parce que le Seigneur a soufflé sur eux. Et ils ont, dans un premier temps, les ossements se sont rassemblés. Il y a eu des tendons, il y a eu la peau qui est venue sur eux. Ça devait être vraiment très, très fort comme image, hein. Et voilà, ils sont debout. Et vraiment, ça devait être quelque chose de vraiment très très fort de voir tous ces humains qui prenaient vie, qui se levaient, tous ces ossements qui se rassemblaient. C'était vraiment quelque chose de très 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 fort. Alors, c'est vraiment l'image que Dieu voulait montrer à Ézéchiel de l'état de l'humain sans l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que, à un moment donné, au commencement, il y a eu un temps où il s'est passé comme une guerre, c'est vraiment une image, hein, une guerre où l'Esprit de Dieu s'est retiré de l'homme. Et c'était un temps vraiment de lutte et vraiment. Il s'est passé des choses très très fortes et comme l'Esprit de Dieu s'est retiré de l'homme, il est mort. Et dans cette vallée, c'était vraiment l'image de tous les hommes morts parce qu'ils n'ont plus l'Esprit de Dieu en eux. Eh bien, si tu peux passer au 5. Voilà. Alors, quand l'humanité se détourne de Dieu, la vie part. La vie physique, intellectuelle, sociale et émotive peut continuer, mais la vraie substance de la vie, car Dieu l'a conçue pour nous, est la vie spirituelle. Cette vie qui est l'image de Dieu dans nous. Sans cette vie spirituelle, nous sommes comme des zombies, comme les créatures dans Ézéchiel 37 qui ont des os et chair, mais aucun esprit. Dieu nous a créés pour qu'il reste au centre, pour que nous puissions dépendre de lui. Donc, c'était vraiment l'image de l'homme sans l'Esprit de Dieu. Et Dieu voulait vraiment montrer à Ézéchiel, parce qu'Ézéchiel annonçait la parole au peuple, et qu'il puisse les voir comme des êtres morts, parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé au début, au départ. C'est pour cela que nous sommes morts. La Bible dit que nous sommes morts. Et au moins qu'on revient à Dieu, au moins qu'on lui demande de venir dans notre vie et de nous donner son esprit, on est mort. On n'a pas d'esprit de Dieu en nous, on est mort. On a un corps, on a une âme, mais on n'a pas d'esprit de Dieu. Donc on a vu ces derniers temps combien l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous veut dire une nouvelle vie, une communion avec Dieu enfin, puisqu'on a l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est ce que nous appelons le salut, c'est nous recevons Dieu comme notre Père, Jésus comme notre Sauveur. Et son esprit vient habiter en nous. Et ça, c'est vraiment le départ de toute chose, du chaos de la terre, des hommes, c'est que l'esprit de Dieu s'est retiré de nous. Et en revenant à Dieu, eh bien, l'esprit de Dieu revient en nous. Eh bien, Rebecca Pippert, elle racontait un jour qu'elle regardait sur la télévision une émission de guerre, de reportage sur des affrontements, une guerre qui se passait, et elle voyait des images atroces de personnes qui se entre-tués, qui se déchiraient, qui se coupaient, il y avait des bras qui volaient, le sang qui giclait partout. Et regarder ça, c'est toujours difficile à regarder. Et puis, bon, elle a dit à un moment donné, je vais aller préparer le souper parce que, bon, voilà, c'est bientôt l'heure. Et puis, ces images sont terribles. Donc, elle est partie dans sa cuisine. Elle a laissé la télévision allumée. Et quelque temps après, elle entend des cris. Et elle reconnaît les cris de sa petite fille. Elle revient dans le salon et elle voit sa petite fille de 3 ans qui regardait ces images de personnes qui s'entretuaient, qui se coupaient en quatre, qui, voilà, on ne va pas faire tout le... Mais voilà, c'était des images terribles dont elle n'avait pas le droit de regarder normalement, mais bon, les enfants, ils sont souvent là où ils ne devraient pas être. Et voilà, donc elle regardait ces images, elle était devant la télévision et criait, sa maman, elle arrivait et la petite fille, elle criait, disait, maman, mais ils sont méchants, mais c'est terrible, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont méchants, mais qu'est-ce qu'ils font? Et bon, maman, elle a bien vu qu'elle était très marquée, la pauvre petite fille. Et la petite fille, elle dit, mais elle est où la maman de ces gens? Elle est où la maman? C'est qu'ils se sont, ils sont plus avec leur maman, ils sont partis, ils font des choses méchantes, ils font des choses terribles, il faut revenir à leur maman. Et après, Rebecca, elle disait, mais quelle image très forte, pourtant simple, qui vient d'une petite fille. De cette séparation que nous avons faite avec Dieu, notre Créateur, celui en qui on devrait dépendre, hein, celui qui nous protège, celui qui reste à côté de nous, qui nous garde. Et quelle image très forte de voir que quand on est livré à nous-mêmes, eh bien voilà, on est capable de faire n'importe quoi. On est capable de faire les pires des choses parce qu'on ne dépend plus de Dieu. Et vraiment, elle a dit, c'était simple, ça m'a parlé très très fort parce que c'est vraiment cette image-là qu'elle a vue. C'est que, voilà, ces gens, ils faisaient n'importe quoi, ils faisaient des atrocités parce qu'ils n'étaient plus avec leur maman. C'est comme ça qu'elle avait compris. Eh bien, c'est vrai que si nous, on ne dépend plus de Dieu, eh bien, c'est sûr que le péché dans ce monde, il se répand et en fait n'importe quoi. C'est vrai. Voilà, donc ça, c'est parce que l'homme a voulu être indépendant, l'homme a voulu se séparer de Dieu, l'homme a voulu vivre sans Dieu. Il pensait mieux faire. Hein, il pensait qu'il pouvait faire bien des choses mieux sans Dieu. Eh bien, finalement, non, quand on voit l'état de ce monde, c'est pas tout à fait ça. Et c'est vrai que la créature que nous sommes, les créatures que nous sommes, ont été créées pour être en accord avec notre Créateur. Et ça, c'est vraiment le message de l'Évangile, c'est que ce qu'il y a de plus important dans la Bible, c'est ça, de retrouver notre Créateur, de retrouver celui qui nous a créés et vraiment accepter ce salut que Jésus nous donne, parce qu'il est mort, vraiment, il a payé le prix pour que nous puissions revenir vers Dieu et dépendre de Dieu. Alors, ça, c'était le contexte, c'est ce qu'on a vu ces derniers temps. Eh bien, maintenant, j'aimerais voir le verset sur lequel on va un petit peu se pencher ce soir. C'est le 6. Alors, en fait, c'est le verset après de ce qu'on a lu. Donc, il me dit, humain, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espoir s'est évanoui, nous sommes perdus. Une autre traduction qui dit notre espoir est mort, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Eh bien, là, on est après que ces ces soldats, ces personnes qui étaient des eaux desséchées sont devenues des personnes. Ils avaient un nouveau corps. Ils devaient être un corps réparé, je pense. Hein, vraiment, le Seigneur avait refait une création. Donc le corps était magnifique et refait. Ils étaient debout, comme une grande armée, debout, avec un corps nouveau. L'Esprit de Dieu avait soufflé en eux, donc ils étaient vivants spirituellement. Mais ce qu'on voit ici, c'est que quand ils disent « Nos ossements sont desséchés, notre espoir s'est évanoui, nous sommes perdus », c'est qu'ils avaient à peine vu qu'ils étaient des nouvelles créatures. Ils ne regardaient pas ce que le Seigneur avait fait. Là où ils se sont vraiment penchés, c'est sur le fait qu'ils avaient des souvenirs. Le souvenir de ce qu'ils avaient vécu pendant cette bataille, pendant le passé qu'ils ont vécu. Donc, ils étaient traumatisés, complètement traumatisés de ce qu'ils avaient vécu. Et ils avaient beau être dans un nouveau corps, ils avaient l'Esprit de Dieu en eux, dans leur âme, et c'est sur l'âme qu'on va se pencher ce soir, eh bien, l'âme était marquée, traumatisée de ce qu'il avait vécu. Et ça devait être traumatisant parce que peut-être de voir ses camarades être tués, être mutilés, etc., ça devait être quelque chose de terrible. Eh bien, c'est aussi l'image que Dieu nous donne de notre état. Quand nous venons au Seigneur, il nous donne son esprit. Donc, on est vivant spirituellement. Mais notre âme est marquée par ce que nous avons vécu dans le passé. Donc, on ne vit pas pleinement parce que le souvenir est tellement fort, est tellement marqué en nous, les blessures, les souffrances qui sont tellement fortes en nous, fait que nous sommes marqués par ce que nous avons vécu. Donc ça, c'est notre âme. Donc, Donc, un corps ressuscité, l'Esprit de Dieu vient habiter dans le corps, mais on peut reconnaître que l'âme vit blessée dans les souvenirs du passé. Donc, les blessures du passé ne s'en vont pas forcément tout de suite comme ça quand on vient au Seigneur. Il y a tout un cheminement qui se passe par rapport à notre âme. Et voilà, les souvenirs restent. Quand on devient une nouvelle créature, on devient une nouvelle créature ressuscitée. C'est l'Esprit de Dieu qui vient en nous. On est vivant, on est en communion avec le Seigneur. Mais notre âme reste très marquée parce que nous avons vécu les uns et les autres hein, dans des situations différentes dans notre vie. Donc, ce qui fait qu'on voit dans ce verset que ces êtres étaient fixés sur leur passé, en fait. Ils faisaient moins attention qu'ils étaient des nouvelles créatures, qu'ils étaient une armée debout. Ils ne se rendaient même pas compte qu'il y avait autour d'eux toute une armée. Ils étaient fixés, pris par le fait qu'ils avaient des blessures du passé, tout ce qu'ils avaient vu, tout ce qu'ils avaient vécu, tout ce qu'ils ont observé autour d'eux. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on observe en nous-mêmes. Hein, on se rend compte nous-mêmes quand on vient au Seigneur, On est conscient de cette nouvelle vie que Dieu nous donne. On est très, très heureux, heureuse de recevoir cette vie. Hein? On sait qu'on a une vie éternelle avec Dieu et cette vie commence aujourd'hui. Sauf que notre vie, notre âme, a souffert. Notre âme, d'une façon ou d'une autre, hein, certains plus que d'autres, ont souffert. Donc ça, c'est encore là. Les blessures sont encore là et on se souvient, on sait qu'ils sont encore là. Donc on ne vit pas pleinement dans cette plénitude que Dieu a préparée pour nous. Eh bien, le prochain, voilà. Alors, je ne sais pas si vous êtes allé dans des pays où il y avait une occupation. Un pays qui a été envahi par un autre pouvoir. Le pays est entouré de soldats et donc les habitants de ce pays ne peuvent pas sortir de ce pays. Ils ont comme ça des checkpoints et on peut sortir que si on a des papiers, hein, tous les papiers légaux hein, qu'il faut pour sortir de là. Mais on reste enfermé dans ce pays parce qu'il y a un pouvoir qui est là, qui domine. Eh bien, c'est juste un exemple qu'on peut appliquer à notre vie aussi. On peut vivre comme si on vit dans une vie occupée. C'est-à-dire, dans ce pays occupé, on a des papiers pour sortir, mais on ne peut pas sortir parce qu'on se sent dans l'occupation. On peut seulement sortir si on a des papiers qui sont en règle. Eh bien, moi, ça me fait penser qu'il y a des personnes qui vivent dans l'occupation, dans leur âme. Dans l'âme, il s'est passé des choses difficiles et il y a comme une occupation. On ne peut pas sortir, on ne peut pas être libéré parce qu'on est enfermé dans ce pays avec un pouvoir. Seulement, si on va au checkpoint et on montre nos papiers, eh bien, on peut sortir. Eh bien, ça me fait penser qu'on a des papiers qui sont en règle parce que le Seigneur nous libère. Il nous libère de tout ce qui peut nous enchaîner. Mais seulement, on n'est pas toujours conscient. On n'est pas toujours conscient. Et dans l'âme, c'est la même chose. On a des souffrances. On peut être libéré de ces souffrances, de ce poids qui est en nous. Seulement, on ne prend pas nos droits. On ne va pas au checkpoint pour sortir. On ne va pas au Seigneur pour dire, « Seigneur, tu vois, je suis occupée là, est-ce que je sais que je suis libre, puisque tu m'as rendu libre, c'est des papiers qui sont, c'est toi qui m'as lavé, qui m'as donné le droit de sortir et être libre, mais je me sens en occupation, je me sens dans un pays occupé. » Et ça, vraiment, on ne prend pas conscience que maintenant nous appartenons pas à ce pays qui est occupé. On a un autre roi, on a un autre qui est venu nous libérer, mais on n'est pas toujours conscient de ça. Et on reste toujours dans ce pays occupé. Nous savons qu'on peut être libre, nous avons des papiers, mais on ne va pas jusqu'au checkpoint pour à franchir cette barrière pour être libre. Et je trouve que c'est la même chose parfois dans notre âme. On préfère rester dans ce pays occupé et on ne vient pas demander au Seigneur de nous libérer de ces choses qui nous tiennent comme ça dans l'occupation. Eh bien, après, il y a une citation de Winston Churchill que j'aime beaucoup. Parfois, la vérité est si précieuse qu'il faut pour escorte un régiment de mensonges. C'est-à-dire qu'il y a la vérité qui est là, mais elle est bien entourée de mensonges. Et ces mensonges nous disent quoi ? Nous disent qu'on ne peut pas être libéré. Avec ce qu'on a vécu, de toute façon, maintenant, notre vie, elle ne peut plus être ce qu'elle aurait pu être. Avec ce qu'on m'a fait, je ne peux plus vivre pleinement. Avec ce que j'ai fait, parce que parfois c'est nous, eh bien, on est dans la culpabilité, jamais je pourrai être pardonnée. Et on oublie que la vérité, c'est que le Seigneur nous libère réellement. Et ces mensonges qui entourent la vérité, très souvent, nous bluffent. On est là, on dit « Ah oui, c'est vrai. Ah ben non, je ne pourrai jamais sortir de là. Ah ben non, avec ce que j'ai vécu, ben, je ne pourrai pas servir le Seigneur. » Avec ce que j'ai vécu, eh ben, ça vaut rien, enfin, bon, je vaux rien, etc. C'est des mensonges. Et Seigneur, quand il libère vraiment. Hein. Donc, c'est vraiment, j'ai trouvé ça pertinent, parce que c'est vraiment vrai pour nos blessures, pour nos souffrances. Eh bien, on peut guérir. On peut surmonter, on peut rebondir après avoir souffert, après avoir vécu des choses difficiles. Et si vous avez dépensé, si dans votre cœur vous dites « Oh ben non, c'est pas possible », c'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est Dieu qui nous libère quand il nous libère, et il nous libère vraiment. Eh bien, on va continuer. Le verset après, alors attention parce que c'est puissant. Hein? Eh bien, prophétise. Alors c'est Dieu qui dit à Ézéchiel, prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur éternel. Voici que j'ouvre vos tombes pour mon peuple. Remontez de vos tombes pour mon peuple. Et je vous fais revenir sur le territoire d'Israël. Bon, c'est bizarre, hein? Parler d'une tombe, bon, ça fait un peu « wow, qu'est-ce qu'il nous dit là, remonter des tombes, qu'est-ce que ça nous raconte ?» Eh bien, c'est très très fort. Le Seigneur, il prend des images des fois qui sont vraiment bouleversantes. Donc, dans un premier temps, on peut lire. Voici, j'ouvre vos tombes. Alors ça me fait penser à une chose qui est très très fort. C'est que moi, si j'étais dans une tombe, j'aurais du mal à en sortir. Parce que c'est lourd, parce que voilà. Ça doit être quelque chose de vraiment difficile de sortir d'une tombe une fois qu'il a été fermé. Eh bien, le Seigneur dit, voici, j'ouvre vos tombes. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Dieu peut faire et il fait ce que nous, on ne peut pas faire. D'accord ? On est dans des tombes parfois. Dans ce que nous vivons, on est comme dans des tombes. Eh bien, le Seigneur dit, j'ouvre les tombes. Lui, il fait ce que lui seul peut faire. Il ouvre les tombes. Mais, par contre, après, remontez de vos tombes. Donc, ça nous parle à nous. Ça nous dit qu'il y a quelque chose que nous, on doit faire. Il y a un mouvement, il y a quelque chose qu'on doit faire pour sortir des tombes. Hein, c'est on se relève, on se met en action pour sortir des tombes. Donc, Seigneur, s'il nous demande ça, c'est qu'on peut le faire. Et puis, après, qu'est-ce qu'il nous dit ? Je vous fais revenir sur le territoire d'Israël. Eh bien, cette image-là, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que dans nos vies, des fois, on est comme dans des tombes. C'est fort comme image. Mais, voyez, tombe, il n'y a pas beaucoup de place. On doit être comme ça. J'ai jamais été dedans, hein, mais j'imagine que ça doit être. Voilà. En plus, ils sont faits pour la taille. Hein. Donc, on peut pas bouger. On est serré dedans. Il n'y a rien à faire. Hein. C'est ennuyeux. Voilà. Il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'occupation. Il n'y a rien. Donc, on est comme ça, comme anesthésié. Dans ce temps. Ça me dit quelque chose, moi, par rapport à notre vie. Ça me parle par rapport à notre condition, des fois. On est comme dans une tombe, immobile, comme ça. On ne peut pas s'épanouir, on ne peut pas se mettre en mouvement, on est trop serré, on est, comme mort. Ensuite, quand le Seigneur dit qu'il ouvre la tombe, il prend l'initiative et c'est lui qui ouvre la tombe. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que lui seul peut faire certaines choses dans notre vie. Lui seul peut ouvrir nos tombes. Ça, c'est... Waouh! Ça, c'est vraiment extraordinaire. Ça veut dire que rien n'est impossible à Dieu. Là où vous êtes, où vous étiez, eh bien, vous n'êtes pas obligé d'y rester. Le Seigneur ouvre ses tombes et on peut en sortir. Et ça, c'est fort. Moi, j'ai vu des femmes sortir de leur vie du passé. Waouh ! C'est extraordinaire, la vie, le changement de vie qu'elles vivent aujourd'hui. Et leur vie du passé, eh bien, ça peut aussi ressembler à des tombes. Enfermé comme ça, dans une souffrance, dans un ennui peut-être, dans un immobilisme, dans anesthésié comme ça, enfermé, sans mouvement, sans vie, eh bien, moi ça me parle. Moi ça me parle beaucoup parce que j'ai vu des vies comme ça. J'ai vu des vies comme ça, j'ai rencontré des femmes, je connais des femmes qui avaient des vies comme ça avant. Mais vraiment des vies comme dans des tombes. Et le Seigneur a ouvert leur tombe. Attention, c'est lui qui le fait. C'est pas à nous de soulever, c'est pas à nous de... C'est lui qui le fait. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, tout est possible. Et ensuite, au mon peuple, je vous fais revenir sur le territoire d'Israël. Moi, ça me dit quelque chose sur notre territoire, sur notre vie. On peut reprendre le territoire de notre vie, de ce que notre vie aurait dû être. Hein? Tout le territoire qu'on a perdu à cause de nos souffrances, à cause de nos blessures, à cause de notre vie, eh bien, on peut reprendre le territoire qu'on a perdu. Hein? Forcément, dans une tombe, il n'y a pas beaucoup de territoire. Hein? C'est tout petit, hein? On ne va pas loin. Eh bien, le Seigneur nous dit qu'il nous fait revenir dans une vie, dans un territoire pour moi, c'est grand, c'est, on regarde partout, on peut regarder, c'est immense. Eh bien, il nous dit qu'il va nous faire revenir sur le territoire d'Israël. Pour moi, c'est une image extrêmement forte, mais c'est vrai, je peux vraiment le dire que je l'ai vu ça. Des femmes. Et ça, vraiment, c'est extraordinaire parce que c'est un miracle. C'est une libération que Dieu seul peut faire. Mais Dieu fait sa part, mais il nous demande aussi de faire notre part. Alors, après, s'il te plaît. Ça peut être quoi nos tombes? Parce que depuis le temps qu'on parle des tombes, on dit, c'est quoi nos tombes en fait? Est-ce qu'on peut se placer dans quoi? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Donc, j'en ai pris juste... C'est ça, hein? Mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Eh bien, on peut être une tombe, dans une tombe parce qu'on a été abandonné. On peut être abandonné. On n'a pas pu vivre l'attachement avec un parent, un attachement avec quelqu'un parce qu'on a été abandonné. C'est un sentiment terrible d'être abandonné, se trouver seul. La culpabilité. Eh bien, la culpabilité, parce qu'on a pu faire des choses, on a pu s'engager dans des chemins qui fait qu'on porte en nous un poids terrible par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à où on était. Voilà. Il y a des choix dans la vie qu'on fait parfois qui sont lourds de conséquences. Eh bien, on peut avoir beaucoup de culpabilité. On peut être dans une tombe avec la culpabilité. On n'arrive plus à sortir, on tourne autour, on est toujours avec ça. On a pu faire des mauvais choix, hein, qui font que ces mauvais choix nous emmènent dans un chemin difficile dans notre vie et qui fait que, ben voilà, on a l'impression que notre vie est fichue maintenant parce que, ben voilà, on est dans une situation de notre choix, mais pas le bon choix. Et on se dit, ben voilà, je suis là maintenant, il n'y aura plus de changement, il n'y a plus rien de possible. Maintenant, ben voilà, je vais rester là, je vais vivre comme ça. C'est une vie au rabais parce que ben, j'ai fait des mauvais choix. On a pu aussi vivre la trahison. Je ne sais pas si vous avez été trahi par des amis. C'est difficile à vivre, hein. Quand les amis vous tournent le dos, c'est quelque chose de lourd à supporter. Ça peut être une amitié depuis longtemps et à un moment donné, ces personnes vous laissent tomber, vous tournent le dos, vous critiquent, etc. C'est très difficile à vivre. Et quelquefois, on est comme ça, fixé sur cette souffrance-là d'avoir été trahi. Avoir été trahi aussi par un compagnon ou une famille ou un collègue ou que je sais, hein, ça peut être dans plein de domaines, ça peut être la trahison, ça peut être le deuil quand on a perdu quelqu'un de très cher qui est parti peut-être avant l'heure, un enfant peut-être, un compagnon, quelqu'un de la famille. On peut être en deuil, on peut être voilà, avec un vide terrible, avec une sorte de d'arrière-plan dans notre vie. Par tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, on a toujours ces choses-là qui sont en nous. On a l'impression qu'on ne peut pas s'épanouir, on ne peut pas profiter de la vie à fond parce qu'on a tout ça encore qui est là. Ça peut être l'abus, ça peut être l'abus physique ou autre, hein. C'est aussi quelque chose de terrible d'être pris pour un objet, d'être manipulé, d'être pris pour un instrument. C'est une souffrance terrible, 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 qu'on porte dans notre vie, dans une vie qui est lourde à porter. Toutes les conséquences de l'abus, c'est quelque chose d'extrêmement lourd à vivre et à porter, qui a des conséquences dans notre vie présente. La violence aussi, ça peut être la violence physique ou verbale, ça peut être des choses qu'on a vécues comme violentes, et du coup, on se sent pas respecté. On se sent vraiment comme une chose. Parce que ah ben on fait n'importe quoi, on nous fait des choses qui ne sont pas dignes d'un être humain. Et c'est quelque chose qui nous marque profondément, profondément. Ça peut être aussi une tombe, parce que c'est des choses qui passent dans notre être, dans notre âme, en profondeur, qui nous marque vraiment très profondément. Ça peut être le rejet des amis, des parents, d'un compagnon, de n'importe, le sentiment de ne pas être aimé par quelqu'un qu'on aime. Eh bien, ça peut être aussi quelque chose qui nous garde dans une tombe. On n'a pas été aimé, on a été rejeté, on n'est pas considéré. C'est un exemple des choses qui peuvent nous garder dans une tombe. C'est-à-dire qu'on est tellement marqué profondément qu'on ne peut pas profiter de la vie pleinement. Eh bien, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit tout à l'heure? Il ouvre nos tombes et on peut sortir de ces tombes-là. Et ça, c'est la nouvelle extraordinaire que Dieu nous donne dans sa parole, dans la Bible. C'est qu'il nous libère, mais réellement. Et ça, c'est extraordinaire. On n'est pas obligé de rester en souffrance. On n'est pas obligé de rester autour de nos blessures. Et souvent, c'est normal de rester un temps dans la souffrance, un temps à regarder ses blessures. On est un temps à prendre soin de soi-même parce qu'on est en souffrance, on a besoin, on est comme chaos, on est comme vraiment abasourdi, on est dans un état terrible et on a besoin de ce temps qui s'appelle un temps de deuil. Il y a des étapes différentes et qui fait qu'on est, on est autour de soi, en fait. On tourne autour de soi parce qu'on pense à ce qu'on nous a fait, on pense qu'on a fait nous-mêmes hein, aussi, dans l'état où nous sommes, tout ce qui n'est plus ce qu'on aurait aimé être, notre vie n'est plus ce que j'avais souhaité, les personnes qui auraient dû prendre soin de moi, eh bien, ils m'ont abusé ou ils m'ont traité comme objet, etc. Donc, c'est des choses qui nous laissent dans un état blessé, comme on peut voir quelquefois un animal qui se met dans un coin et qui touche sa blessure. On peut être comme ça pendant un temps, un certain temps. C'est normal, c'est le chemin de deuil qu'on fait quand on a vécu des choses difficiles. Ça peut être ça, mais ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. Eh bien, Paul B., il a dit qu'on a besoin d'une aiguille pour rapiécer les mailles de son être. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Balbi, il disait que notre être est comme un tricot. Hein, les dames qui font les tricots, vous savez, on va d'un rang à l'autre, on monte. Et notre vie est comme un tricot qui commence et tout ce qu'on peut vivre, eh bien, c'est des mailles. Mais malheureusement, dans la vie de chacun, il y a des mailles, il y a des trous. Il y a des trous dans les tricots. Je vois qu'Annie, elle rigole. Bah oui, des fois dans les tricots, il y a des trous. Hein. Ouais, bah ouais. Hein. J'ai vu dans le club tricot. Hein. Il y a des fois des petits brassières qui ont des trous. Eh bien, notre vie est comme un tricot. Et tout ce qu'on peut vivre, eh bien, c'est comme des rangs qui sont rajoutés, des mailles qui sont rajoutées dans notre vie. Mais tout ce qu'on peut vivre, qui est de la souffrance, qui sont des choses difficiles, qui viennent nous marquer profondément, c'est comme des mailles qui sont perdues. Il y a des trous dans les tricots. Alors, il y en a qui ont des tricots avec un trou, deux trous, et il y en a d'autres qui ont beaucoup de trous. Hein. C'est vrai que notre vie peut ressembler à quelque chose, un pull. Il y a beaucoup, beaucoup de trous. Eh bien, Balbi, qui était un psychologue, il disait qu'on a besoin d'une aiguille pour rapiécer les mailles de son être. Eh bien, on a besoin de Dieu. On a besoin du Seigneur de venir remettre les mailles de ces trous qu'on a en nous. C'est une image forte hein, et je la trouve belle aussi. Parce que moi, je ne sais pas rattraper les trous dans les tricots. Je sais tricoter, mais je ne sais pas rattraper les trous. Mais celles qui savent le faire, c'est super. Hein. On ne voit même pas qu'il y avait un trou et savent faire ça, hein, Daniel hein? Eh bien, c'est super hein, parce qu'ils rattrapent les trous Et du coup, ça fait un tricot super. Eh bien, pas lui disait que notre vie est comme un tricot avec des trous, mais on a besoin de quelqu'un de venir rattraper les trous que nous avons, les trous qu'ils ont été faits dans notre vie par les choses difficiles qu'on a vécues, qui fait que les rangs de tricot ne sont pas très régulières. On a perdu des mailles en route. Bien, alors après Marie. Alors est-ce que le Seigneur veut qu'on guérisse? Est-ce que Dieu veut qu'on sorte de ces tombes? Qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à ça? Est-ce qu'il nous dit, mais débrouille-toi, après tu t'es mis dedans, tu t'en sors? Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les arrache de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il les sauve, ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Extraordinaire ce verset. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que d'abord, c'est la volonté de Dieu de nous sortir de nos détresses. D'abord, il nous voit. Il est avec nous dans les détresses, donc on n'est pas seul, même si parfois on peut se sentir seul. Il est là dans nos détresses, hein, et nous arrache de toutes nos détresses. Et il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur, vous savez, c'est l'âme, c'est notre âme. Et l'âme qui est blessée, c'est le cœur brisé. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit, Seigneur? Wow, yes, il nous sauve de qui ont l'esprit à l'abattement. C'est extraordinaire parce que c'est sa volonté. On n'a pas à se demander, Seigneur, est-ce que tu veux me guérir? Est-ce qu'il va me guérir? Est-ce qu'un jour je vais sortir de là? Eh bien, c'est même plus la peine de se poser cette question-là. C'est que le Seigneur le veut. Il le veut pour chacun d'entre nous. Et il nous dit qu'il veut le faire. Il dit qu'il est là quand nous souffrons. Il est là quand nous souffrons. Il entend. Il est avec nous. Et il connaît, il a vu notre cœur brisé. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous sommes humains, que nous sommes faibles, que nous souffrons. C'est un verset extraordinaire qu'on doit garder avec nous parce que si jamais on peut douter une seule seconde que Dieu ne peut pas nous libérer, eh bien là, on a vraiment la preuve. Après, alors Dieu veut, est-ce que Marie veut? Je ne sais pas si elle veut Marie. Eh bien, dans les psaumes, on regarde, on voit ce verset, regarde, réponds-moi Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas dans le sommeil de la mort. Eh bien, on peut s'endormir dans notre souffrance. On peut s'endormir petit à petit, comme dans le sommeil. On peut s'endormir dans la mort. Eh bien, est-ce qu'on veut sortir? Est-ce qu'on veut être libéré? Est-ce qu'on veut vivre libre de ces souffrances? Parce que ça paraît évident qu'on dit ça. Bon, bien sûr que tout le monde veut. Ah ben, peut-être pas. Il y a des personnes qui ne veulent pas forcément sortir de là. Elles sont victimes. Donc, quelquefois, on se plaît à être victime. Quelquefois, eh bien, on attire l'attention quand on est victime. Donc, on reste victime, mais quand on reste victime, qu'on soit victime et que c'est un fait, c'est normal qu'on puisse le dire et le reconnaître. Mais de s'endormir comme dans un sommeil de la mort, dans cet état-là, à vie, dans cet état-là, eh bien, c'est vraiment quelque chose de triste. Parce qu'on ne vit pas une libération, on ne vit pas la vie, on s'endort. petit à petit dans la mort. Eh bien, David disait, donne-moi, donne à mes yeux la clarté. Donne à mes yeux la clarté, ça veut dire ouvre mes yeux, montre-moi ce que je dois faire, ce que je dois comprendre pour sortir de cet état-là. Donc, c'est aussi notre part, c'est de demander au Seigneur de nous éclairer, ouvrir nos yeux, afin que nous puissions voir clairement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Etc. Pour comprendre un peu notre état dans lequel nous sommes et pour ne pas rester dans cet état-là et de sortir de cet état-là de sommeil, de mort et de revenir à la vie comme le Seigneur nous le propose. C'est de sortir d'une sorte d'anesthésie. On s'endort petit à petit, on est anesthésié dans notre état. Et quelquefois, les souffrances sont telles qu'on est dans un état, mais vraiment profondément douloureux. Donc, on peut comprendre qu'on soit dans cet état-là. Mais petit à petit, le Seigneur nous montre que on peut commencer par lui demander d'ouvrir nos yeux, de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé et après, comme on va voir dans la suite, il peut nous libérer. Alors, voilà, nous sommes tous plus ou moins brisés. On est des êtres humains avec le péché dans le monde, le péché en nous. On a tous fait des erreurs, on a vécu des choses difficiles. On est tous abîmés d'une façon ou d'une autre. Hein? Donc, ça nous concerne tous. Après, il y a des choses différentes dans chaque vie. Alors, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est curieux. C'est très curieux. On revient au choix. Le Seigneur, il nous dit quoi? Il nous dit... Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. C'est curieux que Dieu nous donne le choix, en fait. Mais comme on est des êtres humains créés libres, il nous a créés libres, c'est dans ça que nous ressemblons à Dieu, c'est que nous sommes des êtres libres. Il nous donne le choix. Il ne nous impose pas de changer. Il ne nous impose pas une nouvelle vie si on ne la veut pas. Donc, le choix est à nous. Le choix, c'est, voilà, est-ce qu'on choisit de vivre? Est-ce qu'on choisit de vivre? Même si ce qu'on vit est difficile, et on voit par cette belle image... Que quelquefois il y a des plantes qui poussent dans des endroits, on se dit bah ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette plante-là? Mais comment ça se fait qu'elle a pu pousser dans ce milieu? C'est extraordinaire. Et bien, quelquefois notre vie ressemble à ça. Notre vie ressemble à un terrain comme ça, vraiment difficile. Mais si on choisit la vie, et bien la vie est là. On choisit la vie. Eh bien, le Seigneur nous dit, choisis la vie afin que tu vives. Donc, si on choisit la vie, on va vivre. On va vivre. Et Dieu nous donne une nouvelle vie et une vie en abondance. D'accord? C'est Dieu qui nous dit, afin que tu vives. Donc, si on choisit, on va vivre. On va vivre une vie en abondance. Mais c'est notre choix. Après, il nous dit, toi et ta descendance. Bon, ça, c'est un terme qu'on utilisait dans l'Ancien Testament, mais moi, ça me dit quelque chose. Ça me dit quand même que si moi, je choisis la vie, si moi, je vive, si moi, j'ai une vie en abondance, eh bien, je vais donner envie à d'autres. Je vais donner envie La vie. Je vais donner la vie, je vais donner vraiment ce désir à ceux qui m'entourent de vivre cette vie. Parce que forcément, si vous vivez en abondance, si vous vivez une vie qui est remplie de Dieu, ça ne veut pas dire que vous aurez plus de problèmes. Ça, je ne peux pas vous le promettre et la Bible ne le dit pas. Donc, on ne va pas le dire. Hein. C'est pas du tout ça. Mais au travers des problèmes et des difficultés, le Seigneur est là. On a vu qu'il est à côté de nous. Il est avec nous. Donc, il est avec nous. Eh bien, on a une vie transformée. Donc, notre descendance, les gens qui sont autour de nous, ils vont forcément voir une différence. Ils vont forcément voir quelque chose que nous, on a, que eux, ils n'ont pas. S'ils sont dans une situation difficile ou pas, ils vont voir la différence. Moi, on me l'a souvent posé la question, mais qu'est-ce que tu as, toi, que moi, je n'ai pas ? Eh bien, j'aime bien cette question-là, parce que vraiment, ça montre que, oui, la vie, eh bien, la vie, elle déborde. Eh bien, notre vie déborde aussi, la vie du Seigneur déborde en nous quand on choisit la vie. Ça ne veut pas dire que la vie va être facile, non, non, ce n'est pas ce qu'on dit. Mais ce qu'on dit, c'est que le Seigneur est avec nous, on peut surmonter les problèmes, on peut surmonter les difficultés. Il nous donne de vivre des choses extraordinaires. Eh bien, ça, vraiment, c'est une vie en abondance. Super image. Mais vraiment, vraiment une image de ce que peut être notre vie. Eh bien, la vie peut sortir d'un terrain comme ça. Si on croit que notre vie ressemble à ça, eh bien, la vie, elle peut quand même pousser dedans. Ah, Hélène, c'est possible. Merci. Alors, le choix de choisir la vie, eh bien, ça correspond souvent à un déclic. Un déclic, c'est-à-dire qu'on était dans un état, une souffrance, une difficulté pendant un moment. Eh bien, choisir la vie, ça correspond à un déclic. Il y a des moments où on a besoin de déclic. Hein? Ça peut être quelqu'un qui vous dit quelque chose, ça peut être une rencontre, ça peut être un message, ça peut être un chant, ça peut être une prophétie, ça peut être quelque chose, un paysage, ça peut être quelque chose qui, d'un seul coup, fait qu'en vous, vous vous dites, ben, je choisis la vie, je choisis une nouvelle vie, ce que Dieu me donne. Je vais vraiment me relever et choisir une autre vie. C'est comme un déclic, en fait. Et ça, c'est quelque chose que nous, on peut vraiment prier et on le fait pour les personnes qui sont autour de nous. On est entouré de personnes qui sont dans la souffrance, qui vivent des choses difficiles, eh bien, nous, on peut prier pour qu'ils aient ce déclic de venir vers le Seigneur. Et ça, c'est extraordinaire. Qu'ils puissent aussi choisir la vie comme nous, on l'a fait. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est un point de... C'est pas l'arrivée, c'est un point de départ. Le point de départ, c'est de choisir la vie. Après, on vit une vie avec le Seigneur qui est extraordinaire. Ce n'est pas toujours facile, mais elle est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a après ? On va se presser. Bon. J'ai trouvé quelques versets qui font du bien, qui font vraiment du bien. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce à Christ qui m'en donne la force. Un verset extraordinaire. Gardez-le dans votre Bible. Vous entourez, soulignez tout ce que vous voulez parce qu'un jour vous en aurez besoin. S'il y a des moments, on a besoin de force. Il y a des moments qui sont difficiles. Et on a besoin que la parole nous parle, de nous rappeler des choses que Dieu nous a dit pour avoir la force. Et bien après, si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. J'aime bien le réellement. Parce que, bon, on peut être libre, mais réellement libre, ça c'est génial. Ça c'est super. C'est une promesse. Le Fils, Jésus-Christ, est venu pour nous libérer. Il n'est pas venu pour nous donner des lois, pour nous donner un code à suivre, à faire, pas faire. C'est une liberté en communion avec lui. Ça, c'est extraordinaire. Un autre verset à souligner, à garder, parce que c'est vraiment, vraiment la volonté de Dieu qu'on vit libre. Bon, rapidement, ce que j'ai appris. Alors, d'autres versets pour rapidement. Alors, rapidement. Alors, je demande à Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et vous le fera vraiment connaître. Il ouvre vos yeux à sa lumière afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé. Quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent. Et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Waouh ! Il y a une puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Ça, c'est extraordinaire de savoir ça. Parce que ça nous dit quoi? Ça nous dit que notre vie, la vie que Dieu nous propose, la vie avec Christ, c'est pas ennuyeux. C'est un cheminement où on va vivre une espérance. Une espérance, ça parle d'avenir, hein, d'espérer. Où on va vivre aussi une puissance. Et gloire à Dieu, parce qu'il y a des fois, on a vraiment besoin pour nous sortir de certaines situations, pour arriver à certaines choses. On a besoin de puissance et la puissance de Dieu. Et vraiment, c'est extraordinaire de savoir que ça, c'est pour nous. C'est pas que pour moi, c'est pas que pour Marie, c'est pas que pour Eva, c'est pour chacune. Ici, ça c'est notre avenir. C'est avec Christ qu'on marche. C'est avec lui qu'on construit notre vie d'avenir. Ça c'est extraordinaire. Il nous promet de faire des expériences extraordinaires. J'essaie de aller plus vite. Alors, est-ce que ces guérisons dans notre vie peuvent se faire comme ça, rapidement, ou dans le temps? Et pourquoi ils se font pas rapidement toujours? Parfois, oui. Parfois, ils se font rapidement. Parfois, j'ai vu des personnes qui sont guéries des blessures, des souffrances rapidement. Et d'autres fois, eh bien, ça prend du temps. Eh bien, rapidement, c'est l'image de notre vie chrétienne comme un bébé. Pour nous qui avons eu des bébés, nous savons que quand ils commencent à marcher, eh bien, on est ravis, déjà d'une, et on est dans la joie, waouh, c'est tout un truc. Hein. Vous avez vu les parents qui regardent, waouh, il fait un pas. Ben, il fait un pas, voilà. Ben, c'est extraordinaire, il fait un pas. Eh bien, qu'est-ce qui se passe de le départ de notre vie chrétienne? Eh bien, c'est quand nos bébés font un pas, qu'est-ce qu'on fait? On dégage les tables qui ont des coins, hein, pour pas qu'il se fasse mal. On libère un peu la pièce pour qu'il puisse effectivement marcher sans se faire mal, pour qu'il puisse s'entraîner. Eh bien, le Seigneur fait ça avec nous au départ. Au départ de notre vie chrétienne, il met de côté certaines difficultés pour qu'on puisse apprendre à marcher, parce qu'on apprend tout juste. Donc, on apprend pas à pas. Et on est ravis parce que le Seigneur est avec nous. On sent ses bras qui sont là. Si jamais on peut tomber, il est là. Eh bien, c'est tout comme un bébé. Et c'est le départ. de notre vie chrétienne. Donc, parfois, notre marche avec Dieu, le Seigneur dégage des difficultés, dégage des choses qui sont difficiles. Mais, ensuite, quelquefois, ça prend du temps. Et pourquoi ça prend du temps? Ça prend du temps parce qu'il est important qu'on apprenne pourquoi on a des difficultés, comment les surmonter en difficulté, pourquoi...
Sur la paille.
C'est pas trop dur la paille quand même. Hein. Mais enfin, c'est haut là. Faut grimper. Eh bien, pour surmonter, on va. Si vous avez un enfant de 10 ans, vous n'allez pas dégager la pièce de la petite table, hein, les chaises. Il faut qu'il surmonte. Il faut qu'il apprenne maintenant à marcher, à surmonter les difficultés de la vie. Parce qu'un enfant de 10 ans ou de 15 ans, s'il est encore à la maison, « Oh là, tu fais pas mal !» Non, mais ça n'a pas de sens dans la vie, dans la vraie vie. On ne fait pas ça pour les enfants. Eh bien, le Seigneur fait pareil avec nous. Quand on grandit, quand on mûrit dans la vie chrétienne, eh bien oui, on a des difficultés. Mais comme on est des êtres pensants, que le Seigneur nous a donné une intelligence, il nous demande aussi de mettre notre intelligence au service de la compréhension des textes bibliques, de principes de vie, pour comprendre comment surmonter nos difficultés. Et c'est bien plus important, parce que les difficultés, on peut en avoir une fois, mais on peut en avoir plusieurs. Donc c'est important d'apprendre comment surmonter les difficultés. C'est pas que le Seigneur veut pas nous répondre tout de suite, tout le temps. C'est parce que il nous apprend. Hein? Joseph, quand il était en prison, il a attendu un certain temps. Il fallait qu'il apprenne certaines choses avant qu'il ait cette responsabilité d'un pays entier. Donc nous aussi, on a besoin d'apprendre à grandir, hein, pour savoir comment surmonter les obstacles de la vie. Et comment on surmonte les obstacles de la vie? Comment grandir? Eh bien, d'abord avec la parole de Dieu, hein? Connaître Dieu, connaître la vie chrétienne, hein, ce que Dieu nous demande, connaître Dieu, l'Esprit de Dieu, il témoigne en nous toutes la sagesse, tout ce qu'on peut connaître de Dieu va nous aider à grandir, à être la personne qu'il veut. Et connaître ses voies, connaître la vie qu'il nous demande de vivre, etc. Par la prière, parce qu'on a besoin de la prière pour prier pour chaque blessure, pour chaque souffrance qu'on a vécue. On a besoin de prier pour chaque, pour que le Seigneur nous guérisse, qu'il nous libère, qu'il puisse fermer ses blessures, pour que la peau puisse être bien, bien guérie et recouverte. Eh bien, la prière, le Seigneur le fait, il est tout puissant, il le fait. Et puis aussi, on a besoin de soutien. Donc, c'est important de chercher du soutien, une amie, quelqu'un qui peut vous aider, vous soutenir, avoir communion avec vous, prier avec vous. C'est très important de se sentir entouré. C'est pour ça que le Seigneur a voulu l'Église, pour qu'on se sente entouré, pour qu'on se sente soutenu. Mais quelquefois, on a besoin de personnes qui nous soutiennent d'une façon beaucoup plus proche et intime pour sortir et surmonter des problèmes qu'on a eus, des souffrances qu'on a eues. Donc ça, c'est comment grandir. Ça, c'est le chemin après. Alors, le verset de départ, hein, eh bien, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On est une nouvelle créature puisque le Seigneur est mort pour nous, pour qu'on puisse vivre, spirituellement vivre. Les choses anciennes sont passées. Eh bien, tout ce qu'on a pu vivre dans le passé, ils vont passer. C'est-à-dire qu'on va s'en remettre. On va être guéri de tout cela. Ça ne veut pas dire qu'on va les oublier, forcément. Ça ne veut pas dire qu'on va les nier. C'est pas, on ne fait pas semblant qu'ils n'ont pas existé, par exemple. Ça, c'est pire. C'est, oui, ils ont existé dans mon passé. J'ai vécu ça. Mais maintenant, le Seigneur me guérit, m'a guéri. Donc, c'est du passé. Hein? Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça nous parle de la vie aujourd'hui et demain. Parce qu'on a beaucoup parlé du passé, mais il y a une vie aujourd'hui, il y a une vie demain. Il y a une vie nouvelle. Toutes choses sont devenues nouvelles. On ne regarde pas la vie de la même manière qu'au départ. Parce que les yeux ont changé, le regard sur notre vie a changé. Et donc, on peut regarder l'avenir différemment. Est-ce qu'on est au bout, là ?
Oui, c'est comme je veux.
Voilà. Alors, un sens, on trouve un sens à notre vie. On a besoin de sens dans notre vie, en effet. C'est Dieu qui nous a formés, nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche et en action bonne, hein, celle qu'il a préparée d'avance afin que nous les pratiquions. Il nous a préparé des choses à faire. Attention, vous avez toutes des choses à faire. Hein. Et c'est le Seigneur qui les a préparées pour vous. Et donc, dans l'avenir, on sait que le Seigneur nous a préparé des choses extraordinaires pour chacun d'entre nous. Ça, c'est formidable, ça part ça. Hein. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous le savons parce que nous aimions nos frères et sœurs. Celui qui n'aime pas est encore dans le pouvoir de la mort. On sait qu'on est né de nouveau quand on vient à Christ. On sait pourquoi on sait. Parce qu'on est rempli de l'amour de Dieu pour nous. Hein, on se sent aimé de Dieu, accepté de Dieu. Mais aussi, il nous donne à aimer notre prochain. Et dans le texte que nous avons lu dans Ézéchiel, il nous est parlé d'une grande armée. Eh bien, l'Église ou le peuple de Dieu, c'est une grande armée. Et l'armée, on ne va pas entrer là-dedans, parce que je ne suis pas très armée, là. Ça ne m'a jamais tenté, pas trop mon truc. Aller à l'armée, bon, non, c'est vraiment pas. Mais si le Seigneur dit que l'Église est une armée, c'est qu'il doit avoir des choses qui sont bien. Alors moi, j'en ai retiré, il y en a sûrement plein, moi j'ai retiré ça. C'est que quand on est soldat dans l'armée, eh bien, on vient au secours d'autres soldats qui sont tombés, d'autres personnes qui ont des difficultés, d'autres personnes qui ont besoin de nous. Et bien sûr, une armée fait plein d'autres choses, mais une armée fait ça aussi. Et quand on a souffert, quand on a vécu des choses difficiles, on est très qualifié hein, pour aider les autres parce qu'on sait ce que c'est la souffrance. On sait ce que c'est les difficultés. Et même si on ne sait pas trop quoi faire après, on peut toujours les sortir du trou. Hein. On peut venir en aide. On peut tendre la main pour qu'ils sortent de là où ils sont et les conduire à d'autres hein, qui peuvent s'en occuper, qui peuvent les soigner. Qui peuvent leur communiquer la parole, qui peuvent leur dire maintenant qui ils sont en Christ, eh bien, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est extraordinaire. Hein. C'est qu'on devient, à notre tour, des personnes qui vont aider d'autres à la guérison, qui vont participer à reconstruire certaines personnes, les aider dans la vie, même si c'est qu'une fois, même si c'est une parole encourageante, même si c'est l'aider matériellement, même si c'est prier pour eux, de façon très très différente. Hein, on peut aider de façon très différente. Mais en tout cas, on peut aider. Et les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour nous, eh bien, ça en fait partie, c'est que le Seigneur va se servir de nous, d'être une bénédiction pour ceux qui nous entourent et qui sont mal pris. Vous ne trouvez pas ça bien, vous?
Moi, je trouve ça extraordinaire.
Moi, je trouve ça merveilleux qu'on peut, à notre tour, être une bénédiction pour les autres. Eh bien, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Et vraiment, ce soir, je vous encourage de vraiment choisir la vie. Pour celles qui sont encore abattues, pour celles qui sont vraiment dans la tombe, parce qu'elles se sont vraiment enfermées dans une situation, dans un sentiment qu'ils ont le sentiment de ne pas vivre pleinement, de ne pas vivre une vie en abondance. Eh bien, je vous encourage de choisir la vie, parce que la vie est extraordinaire avec le Seigneur et nous réserve, mais alors, des choses vraiment magnifiques. À terminer dans la prière, Seigneur Jésus, je veux te glorifier. Je veux te glorifier de tout mon être ce soir. Je veux vraiment t'adorer. Seigneur, nous n'avons pas assez de vocabulaire pour te dire combien nous sommes reconnaissants. Combien notre cœur déborde de joie, Seigneur, de savoir d'abord que tu nous aimes. Savoir que tu nous sauves, que tu nous donnes une vie en abondance, que tu nous prends de la mort à la vie, tu nous donnes une nouvelle vie. Seigneur, merci, c'est extraordinaire. Mais pas seulement tu nous donnes la vie, mais tu guéris nos blessures. Seigneur, tu connais nos vies, tu connais nos vies dans tous les détails. Tu sais ce qu'on a vécu puisque tu étais là. La parole dit que tu étais là avec nous. Donc, tu sais ce qu'on a vécu. Seigneur, je veux prier pour nos amis, nos sœurs qui sont là ce soir et qui ont vécu des choses difficiles. Seigneur, je veux te demander de les toucher, de les visiter, de venir les consoler, de venir leur montrer combien tu peux ouvrir ces tombes, combien, Seigneur, tu peux guérir, Seigneur, ces blessures qui sont profondes et douloureuses. Seigneur, je veux te glorifier parce que cela tu le fais. Je prie, Seigneur, que chacune ce soir puisse choisir la vie, Seigneur. Oh, Seigneur, qu'ils puissent vraiment choisir la vie, Seigneur. Qu'ils puissent s'engager avec toi, Seigneur, dans la vie, recevoir ton esprit, avoir une communion avec toi, de vivre avec toi jour après jour, Seigneur, dans les difficultés, dans les jours pénibles et douloureuses, mais aussi dans les jours, Seigneur, où tout va bien, et bien tu es toujours là. Seigneur, tu ne promets pas une vie sans problème, sans difficulté, mais tu nous as promis d'être là, Seigneur. Quel honneur de t'avoir dans notre vie. Quelle joie, Seigneur, de t'appartenir. Seigneur, que personne se prive ce soir de cette vie qui vient de toi, Seigneur, cette vie en abondance. Seigneur, sois glorifié. Parce que, Seigneur, c'est ton désir. C'est ton désir de donner cette vie. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais dans les vies ce soir. Que cette parole, Seigneur, puisse rester dans les cœurs. Que chacune puisse méditer dans son cœur, dans son âme. Seigneur, ce soir, demain, dans l'avenir, de toutes ces paroles qui viennent de toi, qui sont si merveilleuses, encourageantes, avec des promesses, Seigneur, que tu nous fais, qui nous donnent vraiment envie de vivre. Seigneur, sois glorifié ce soir. Sois béni ce soir. Nous te donnons toute la gloire, Jésus. Amen.